25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace édition du 14 mars. Beaucoup de choses encore pour vous cette semaine. On va parler du Rocket de Laval qui revient d'un voyage qui a été un petit peu plus difficile en une autre grosse semaine que le Rocket vient de vivre. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en long et en large. On a deux invités à vous présenter. William Dufour, qui est présentement le meilleur buteur de la Ligue junior majeure du Québec, l'attaquant des Sea Dogs de Saint-John, qui va très bien, avec qui je me suis entretenu ce matin. On va également découvrir un petit peu le nouvel entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton, Chad Cassidy. C'est un gars qui est arrivé dans la Ligue. C'est l'entraîneur le plus nouveau, si on veut. Je vais m'exprimer comme ça. Celui qui a fait ses débuts là, au retour de la pause de la COVID, de la pause de Noël. Donc, on a fait un brin de jasette avec lui. C'est un Américain originaire de Lake Placid qui dirige maintenant les destinées des Eagles du Cap-Breton, les Eagles qui se battent pour une place en série. Et on va également profiter de la semaine pour faire un brin de jasette avec le collègue Yannick Lévesque. On ne va pas parler de Ongeaz, on ne va pas parler de hors-jeu 2.0, mais de son travail comme président de la Ligue de développement, le M18-3A. Confrère Yannick Lévesque qui termine sa quatrième saison à la barre de la Ligue. Ça n'a pas été facile son règne depuis qu'il est en place, alors on va faire un brin de jasette avec lui, parler de ce qui s'en vient pour son circuit. Il reste encore une semaine de saison régulière, la Ligue M18-3A. J'ai misère avec le nouveau nom, là. Je suis habitué de dire la Ligue de développement Midget 3A. On a changé le nom pour enlever le mot Midget. On va en parler d'ailleurs dans l'entrevue avec Yannick. Bref, la saison se termine dimanche prochain. Les séries éliminatoires vont se mettre en marche quelques jours plus tard. Pour notre édition de cette semaine, vous savez que ceux qui nous suivent à chaque semaine, on a presque toujours un invité du Rocket de Laval, soit un joueur, soit un entraîneur, un membre de l'organisation. Cette semaine, on nous a demandé la journée de congé. On le sait, le Rocket vient de disputer une séquence absolument hallucinante. 7 matchs en 11 jours à domicile là, du 25 février au 7 mars. On a pris la route, on a joué mercredi, vendredi, samedi. L'équipe est rentrée très tard dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, c'était congé complet là, pour le Rocket. Et hier et aujourd'hui, on va reprendre l'entraînement demain. Alors, on nous a demandé également congé au niveau des entrevues, ce qu'on a tout à fait compris et accepté. Donc, nous n'avons pas d'invité du Rocket cette semaine, mais je vais quand même vous résumer ce qui s'est passé. Il faut se rappeler que la semaine du Rocket a commencé lundi soir par le dernier match de cette séquence de 7 en 11 à domicile où les Thunderbirds de Springfield étaient les visiteurs lundi dernier à la Place Belle. Honnêtement, le Rocket s'est incliné 5-2 face à, moi, ce que je considère une des meilleures équipes qu'on a vu passer cette année à la Place Belle. Certes, les Comets de Utica ont une bonne saison, mais la vitesse d'exécution là, de l'équipe de Springfield m'a personnellement impressionné. Un bonhomme comme James Neal qui revient dans la Ligue américaine après avoir joué les 10-12 dernières années dans la Ligue nationale, il est encore très rapide. C'est une équipe qui déployait bien son attaque massive et tout ça. Alors, pas surpris de les voir parmi les meilleures formations de la Ligue. Et le gardien Charlie Lindgren, qui effectuait également son retour à Laval au cours de ce match-là, ben, a joué un bon match et c'est, comme je disais, donc pas une surprise de voir les Thunderbirds de Springfield avec une fiche de 31 victoires, 17 revers et 7 défaites en bris d'égalité au sommet de la section Atlantique. C'est assurément une des puissances de la Ligue et je le répète, là, je ne veux rien enlever à Utica qui, dans les faits, une meilleure fiche que Springfield. On n'a pas vu, évidemment, certaines équipes de l'Ouest, là, Stockton, Ontario, Chicago et tout ça, là, qui sont parmi les puissances de la Ligue. Mais à mon sens, là, Springfield, ça a été une des bonnes équipes qu'on a vu visiter. Comme c'est souvent le cas, le Rocket, lorsqu'il subit une défaite, rebondit très bien par la suite. Alors, mercredi à Rochester, on a bien amorcé le voyage avec un convaincant gain de 7-2 contre un rival direct de la section Nord. Et par la suite, le Rocket est allé perdre deux matchs vendredi et samedi. Vendredi contre Lehigh Valley à Allentown, c'est un match que le Rocket menait 3-2 en début de troisième période et qu'on a échappé en accordant deux buts. Et c'est une défaite qui fait un peu mal, de sorte qu'avec la défaite à Wilkes-Barre samedi, le Rocket a terminé sa semaine avec une victoire et trois défaites. Là, on est en 6 jours de congé. Là, comme je le disais, ça va vraiment faire du bien. Le Rocket va rejouer vendredi et samedi à la Place Belle. Deux matchs qui seront présentés, évidemment, sur les ondes de RDS. Deux équipes qu'on n'a pas vues cette saison à Laval. Vendredi, le Wolfpack de Hartford, qui est troisième dans la section Atlantique. Ça, c'est le club école des Rangers de New York. Et samedi, la visite de Zach Fucale et des Bears de Hershey. Zach Fucale, qui incidemment vient de réussir 3 jeux blancs consécutifs à ses 3 derniers départs. Les Bears de Hershey, qui sont 5e dans la section Atlantique. Deux équipes qui sont dans le même niveau à peu près que le Rocket de Laval. La bonne nouvelle, le Rocket aura pris du repos un peu. Et lorsque Hershey va se présenter aussi samedi, ce sera un troisième match en 3 jours pour les Bears samedi après-midi. Les Bears qui jouent jeudi à Toronto, vendredi à Belleville avant de se présenter samedi à Laval. Alors, seulement que 2 matchs cette semaine pour le Rocket, ça va faire du bien. Ça va permettre de recharger les batteries assurément. Il y a eu des mouvements de personnel au cours de la dernière semaine en ce qui concerne le Rocket de Laval. Premièrement, on a ajouté à la liste des blessés quelques joueurs. On le sait, avec les matchs qui se succèdent à un rythme assez effarant, on n'a pas eu le choix là, d'avoir des blessés. Alors, Cameron Ellis s'est retrouvé sur la liste des blessés. À un certain moment, Torrey Dello aussi s'est retrouvé sur la liste des blessés. Ça a permis à Darren Kilb de faire ses débuts avec le Rocket, à qui on a accordé un essai professionnel. Kilb qui a joué les 2 matchs du week-end, vendredi et samedi. Et également, au cours des dernières heures, le Canadien a placé au balotage l'attaquant Cédric Paquette, qui n'a pas été réclamé. Alors, il va se retrouver à Laval. On a de bonnes chances de le voir en uniforme là, pour les prochains matchs. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements de personnel d'ici là? On verra bien. La situation des gardiens de but demeure inchangée. Louis-Philippe Guindon est toujours dans l'entourage de l'équipe avec Kevin Poulin. D'ailleurs, c'est Guindon qui a amorcé le match de samedi contre Wilkes-Barre, ça n'a pas très bien fonctionné. Il a accordé 3 buts. On a terminé la rencontre avec Kevin Poulin. Kevin Poulin qui, rappelons-le, fait très bien avec le Rocket depuis le début de la saison. Alors, c'est la situation là, pour le Rocket. 2 matchs, donc vendredi et samedi, contre Hartford et contre Hershey. Et dans l'autre semaine, ça va être également 3 matchs à domicile, mercredi, vendredi et samedi, Belleville, Lehigh Valley et Scranton-Wilkes-Barre. Donc, dans les 5 prochains matchs à la maison, là, outre Belleville, c'est 4 équipes qu'on n'a pas vues cette année. Ça va faire du bien un petit peu de voir des nouvelles formations pour ce prochain séjour à domicile, qui va être encore une fois quand même là, assez éreintant, avec 5 matchs au cours dans un espace de 9 jours. Alors, c'est le rythme de la Ligue américaine présentement. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est Owen Tippett. Des Checkers de Charlotte, 4 buts, 4 passes pour 8 points en 4 matchs. Tippett qui a supplanté, entre autres, Zach Fucale, qui au cours de la dernière semaine avait réussi 2 jeux blancs. Ce matin, quand je préparais la balado-diffusion, je me disais que Fucale avait de bonnes chances de gagner le titre de joueur de la semaine, mais ce n'est pas le cas. On a accordé ça à Owen Tippett, donc du club école des Panthers de la Floride. Alors voilà pour notre segment sur la Ligue américaine. Comme je le disais, pas d'entrevue cette semaine à vous présenter avec le Rocket, mais ce n'est que partie remise. On va se reprendre au cours des prochaines semaines. Du hockey de la Ligue américaine, on passe au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Encore une fois, une grosse semaine d'activité dans le circuit Courteau. Plein de choses à vous parler qui se sont passées au cours de la dernière semaine, en commençant peut-être par revenir sur notre match qu'on a présenté en direct vendredi soir à Victoriaville, alors que les Cataractes de Shawinigan étaient les visiteurs. Ça s'est soldé par un gain de 4-3 des Cataractes. C'était notre 2e match de la LHJMQ sur les ondes d'RDS, notre retour cette année comme diffuseur des matchs de la Ligue canadienne de hockey de la LHJMQ. Alors, merci aux gens de Victoriaville pour l'accueil de vendredi soir. Les Tigres, qui honnêtement se sont bien battus après avoir tiré de l'arrière 3-0, sont revenus dans ce match-là pour créer l'égalité 3-3. Mais la maturité et l'expérience des Cataractes a fait la différence à la toute fin. Donc, ça s'est soldé par une victoire des Cataractes qui sont engagés dans une belle lutte avec le Phoenix de Sherbrooke pour le premier rang de la section centrale. Sherbrooke qui est sur une bonne séquence ayant gagné ses 5 derniers matchs. Et Sherbrooke est allé chercher 3 victoires en 3 matchs dans les Maritimes en fin de semaine. Je vais aller faire un petit tour du côté de Sherbrooke mercredi pour la visite de l'Océanique de Rimouski. Le Phoenix qui joue très bien. Quand on parle du Phoenix, on parle évidemment de Joshua Roy, le leader de l'équipe, 18 ans, premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec ses 84 points, dont 32 buts. Il a récolté au moins un point à chacun de ses 18 derniers matchs. Donc, ça va vraiment bien pour Joshua Roy. Mais au-dessus de son épaule, il a William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean qui a 82 points. Les deux se sont détachés du peloton. Là, ça s'annonce pour être une lutte à deux pour le trophée Jean Béliveau, le remis au meilleur pointeur de la Ligue. Dufour a 82 points, Roy en a 84. Dufour a 19 ans, Roy a 18 ans. Dufour joue dans une section plus compétitive peut-être que celle de Joshua Roy, mais les deux connaissent une excellente saison. On va y revenir parce qu'on a une entrevue à vous présenter avec William Dufour. Je veux faire le tour un petit peu des nouvelles de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a eu le rappel par les Olympiques de Gatineau jeudi dernier de la gardienne de but Eve Gascon, qui a servi d'adjointe au gardien Émeric Despatie des Olympiques pour le match de samedi contre les Foreurs de Val-d'Or. Les Olympiques qui ont échappé ce match-là 7-6 en prolongation. À un certain moment, on s'est demandé si Louis Robitaille était pour lancer Eve Gascon dans la mêlée. Finalement, ce ne fut pas le cas. Il est demeuré au banc. Émeric Despatie, ça a été difficile lors des deux derniers matchs depuis qu'il a remplacé le Rémi Poirier, qui est sur la liste des blessés, a accordé 7 buts là, à Val-d'Or jeudi et 7 buts également samedi contre les mêmes Foreurs à la maison. Les Olympiques bénéficiaient d'une semaine de congé, alors ça va leur donner un répit un peu et permettre à Rémi Poirier là, de reprendre la forme. J'ai l'impression qu'Eve Gascon sera encore là comme dans l'entourage de l'équipe pour la visite de l'Océanique de Rimouski le week-end prochain. Est-ce qu'elle sera lancée dans la mêlée? On verra bien. Les Moussets d'Halifax se sont départis de leur attaquant européen Sanna Peters qui a décidé de retourner en Europe. La fin donc de l'association pour cet attaquant avec les Moussets d'Halifax. Ça fait partie des nouvelles de la dernière semaine. Et du côté de l'Océanique de Rimouski, on a confirmé aussi qu'on va finalement reprendre la cérémonie hommage à Doris Labonté le 8 avril prochain. Ça devait avoir lieu en mars 2020, au moment où la COVID a été évidemment nous a envahi il y a 2 ans. La cérémonie était prévue, je crois, vers le 20 mars 2020. Puis évidemment, on n'avait pas pu la tenir. Et là, l'an passé, pas de spectateurs dans les bulles et tout ça. Finalement, donc, devant des spectateurs, Doris Labonté, qui sera honoré là, par la direction de l'Océanique de Rimouski, lui qui a conduit l'équipe championne de l'Océanique en 2000 à la conquête de la Coupe Memorial et retourné également comme entraîneur-chef avec l'Océanique en 2005 en finale de la Coupe Memorial contre les Knights de London. Et donc, il sera honoré devant les partisans de l'Océanique au cours de la dernière semaine. Justin Robida des Foreurs de Val-d'Or est le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a ajouté 2 buts et 7 passes pour les Foreurs au cours de la dernière semaine. Dans une semaine où les Foreurs ont gagné 2 victoires et ont subi 1 défaite. Donc, il a participé à 9 des 16 buts des Foreurs, les Foreurs qui ont connu une bonne semaine. Ça a moins bien été pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il est arrivé une situation cette semaine dans la Ligue junior majeure du Québec qu'on voit à peu près jamais. Mercredi dernier, les Remparts sont venus à Boisbriand, ont gagné 11-0 contre l'Armada. Ça, c'est rare qu'une équipe se fait varloper comme ça à domicile. Mais les mêmes Remparts sont allés à Rimouski vendredi et ont perdu 9-2. Alors, tu gagnes 11-0 mercredi, tu perds 9-2 vendredi. Et dans le match de 9-2, là, jusque très tard, en troisième période, c'était 9-0 pour l'Océanique. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, là, une équipe gagner par un si gros pointage et perdre par la suite par une si grande marge aussi. C'est assez particulier. Je vous parlais des Cataractes de Shawinigan. Ils ont subi la défaite hier à Rimouski, mais ils avaient gagné 4 matchs de suite. Maverick Bourque des Cataractes, qu'on a eu en entrevue vendredi soir à Hockey 360. Seul joueur de la Ligue canadienne présentement qui maintient une moyenne supérieure à 2 points par match depuis le début de la saison. Il faut quand même le mentionner. Les Tigres de Victoriaville ont échappé un gros match contre Rouyn-Noranda dans la course aux séries. On avait gagné un match à Rouyn-Noranda le week-end précédent, in extremis. On était revenu derrière pour gagner en prolongation. Mais les Huskies se sont vengés à Victoriaville samedi après-midi. De sorte que pour les Tigres de Victoriaville, présentement, c'est une victoire en 12 matchs seulement. Et les Tigres ont chuté au 17e rang du classement général, menacés donc de ne pas participer aux séries éliminatoires. Je vous ai parlé des Remparts, je vous ai parlé de l'Océanique. Les Saguenay-Chicoutimi ont quand même eu un voyage intéressant. Ils ont gagné à Rimouski, perdu au Cap-Breton, gagné à Halifax et perdu à Charlottetown. Donc, ils reviennent à la maison avec une fiche de 500. Et juste avant ce départ-là, il y avait eu un match à Québec également. Donc, dans les 5 derniers matchs à l'étranger, on est allé chercher 3 victoires du côté des Sags. Les Sags qui ont remonté un petit peu au classement, là, qui devraient sans trop de problèmes se qualifier pour les séries. Une équipe qui a bien fait également au cours des derniers matchs, le Drakkar de Bécomo, 4 victoires en 5 matchs, dont 2 à domicile en fin de semaine contre Boisbriand. Le blanchissage même hier de Olivier Adam, l'ancien gardien de l'Armada contre son équipe. Charlottetown a vécu une période difficile. Perdu 3 matchs de suite, dont 2 en prolongation, mais a gagné hier contre les Saguenay. Les Islanders, en termes de pourcentage de points, le demeure premier du classement général, mais ont subi quand même 3 défaites là, dans leurs 4 derniers matchs. Les Sea Dogs de Saint John, c'est l'équipe de l'heure. C'est en ce moment 7 victoires de suite et on marque beaucoup de buts, le 8-1, 7-1, 10-2, 5-0 contre Moncton. C'est une équipe qui roule et on va s'entretenir, on va vous présenter l'entrevue dans quelques instants avec William Dufour. Titans des Caddy Batters, 2 victoires pour le retour à la maison contre Moncton et Charlottetown. Les Mooseheads, c'est un petit peu plus difficile, une seule victoire à leurs 6 derniers matchs. Moncton a perdu 3 matchs de suite. Et le Cap-Breton, pas un calendrier facile. Je regardais le Cap-Breton.
25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde. Avec là,
pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
Reste 24 matchs à jouer, 15 contre Batters, Charlottetown et Saint John. Alors, ça va être extrêmement difficile. Il en sera question, d'ailleurs, dans notre entrevue avec Chad Cassidy. Je vous parlais donc de William Dufour, cet espoir des Islanders de New York, meilleur buteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Sea Dogs qui vont très bien par le temps qui court. On vous présente donc cette entrevue avec le jeune attaquant de 19 ans. On s'entretient avec le meilleur buteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, William Dufour, 42 buts cette saison avec les Sea Dogs. Comment ça sonne à ton oreille quand je te présente comme ça, William?
C'est sûr, c'est le fun à entendre. C'est sûr, j'ai une excellente saison jusqu'à présent. Puis surtout dernièrement, ça va être extrêmement bien pour moi, mais surtout pour notre équipe. Là, je pense qu'on est sur une séquence de 7 victoires d'affilée. Donc, jusqu'à présent, depuis Noël, ça va extrêmement bien. Là.
As-tu senti à un certain moment qu'il y a quelque chose qui a décliqué, qui a changé, ou ton retour du camp d'équipe Canada Junior, est-ce que ça t'a fouetté? Ou...
Non, c'est sûr que, tu sais, oui, à mon retour, ça m'a fouetté un peu, tu sais, de ne pas faire l'équipe. Ou, tu remets les pieds sur la terre. Mais c'est sûr que depuis Noël, je veux dire, tu sais, avec la nouvelle équipe qu'on a, avec les nouvelles acquisitions qu'on a faites au début, c'était peut-être un peu plus difficile. On s'est rencontrés tous les gars ensemble quand on était à Halifax après notre défaite, je pense, de 6-2. Puis depuis ce temps-là, ça va être juste extrêmement bien pour nous autres, puis surtout pour moi aussi. Là, fait que ça, je suis très content de ça. Là.
Est-ce que c'est devenu à un certain moment un nouveau camp d'entraînement pour les Sea Dogs? Parce que vous êtes l'équipe qui a fait le plus de changements. Là, c'est incroyable. On ne reconnaît plus du tout l'équipe de début de saison.
Oui, c'est sûr. Tu sais, au début, les trios étaient vraiment mélangés. Tu sais, c'est des gars que. On était avec des gars qu'on n'a jamais joué, juste jamais peut-être vu jouer. Moi, avec je parle au début, j'étais avec Philippe Daou. On a peut-être joué contre une ou deux fois dans notre carrière junior. Donc, c'est sûr, ça fait différent de jouer avec des nouveaux joueurs. Mais depuis, ça fait quand même 15-16 games qu'on joue tout ensemble. Donc, ça, la chimie est là. Puis, dans les pratiques, on s'occupe de ça, de pratiquer ensemble, après les pratiques, avant les pratiques, on s'entretient tous ensemble aussi. Fait qu'on a, la chimie a commencé juste à être de meilleur en meilleur. Là. Ça va bien pour nous autres. Là.
J'ai parlé avec Philippe Daou il y a quelques semaines dans le cadre de la balado-diffusion. Puis c'est ça qu'il me disait. Il faut que les joueurs acceptent le rôle aussi, que là, tout le monde ne peut pas être 8 sur l'avantage numérique, sur la première avantage numérique. Il faut accepter. Puis est-ce que ça, tu as senti que ça a été difficile? Ou...
Non, je pense que les gars acceptent leur rôle. C'est sûr qu'on qu'on a des excellents joueurs. Tu sais, je dis la deuxième unité d'avantage numérique. Tu sais, c'est notre troisième, quatrième trio. On a des excellents joueurs. C'est des gars qui ont des cannes dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a, on a de la profondeur. Puis, tu sais, si on veut gagner, les gars, il faut que les gars acceptent leur rôle. Fait que je pense que jusqu'à présent, ça, ça va bien là, pour ça.
L'importance d'essayer de rejoindre Charlottetown. Tu sais, je veux dire, on dit toujours l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial, elle ne veut pas rentrer par la porte en arrière. Puis tout ça, l'importance de premièrement, la saison, puis après ça, les séries. Est-ce que vous parlez beaucoup de ça? Ben non, si on prend ça match par match. Puis...
C'est sûr qu'on parle, plus match par match. En ce moment, le classement, oui, on veut finir le plus haut possible pour donner la, la meilleure position pour l'avantage de la glace en série aussi, mais juste la meilleure position pour nos affrontements. Fait que c'est sûr qu'on, tu sais, oui, on en parle un peu, mais c'est sûr qu'il reste juste une vingtaine de parties de notre calendrier. Donc, tu sais, on en parle un peu, mais en ce moment, on concentre plus match par match puis la façon qu'on joue à chaque soir. Là.
Dans les Maritimes, en ce moment, c'est très, très relevé comme compétition. Vous avez des matchs difficiles à chaque fin de semaine, pratiquement. Puis, je vais te parler de quelque chose. Je ne sais pas si tu es à l'aise de voir comment je vois ça, tu sais, mais on parle beaucoup de Joshua Roy au Québec en ce moment, qui connaît une bonne saison. Tu sais. Puis, il y a un dépisteur qui me disait l'autre jour, « Ouais, mais Dufour, lui, il compte ses buts contre des grosses équipes. » Tu sais, sans rien enlever à Joshua Roy, tu sais, t'as peut-être plus de mérite, tu penses, depuis le début de l'année à cause de ça?
Non, ou... c'est sûr que tu sais, moi, j'enlève absolument rien à Josh. Tu sais, j'ai joué avec l'équipe Canada, c'est un excellent joueur de hockey. Tu sais, il joue comme des... C'est sûr que à l'occasion, il joue comme des équipes. Tu sais, on s'entend que la division du Québec est un peu plus faible que la division des Maritimes, si je peux m'exprimer comme ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il joue comme des grosses équipes, pareil, des, tu sais, à des soirs, puis tu sais, il fait des... Il peut faire beaucoup de points aussi contre des grosses équipes, là, comme je pense contre Halifax dernièrement, puis tout, qui sont quand même une très bonne équipe de hockey. Donc, c'est sûr que nous autres, jouer contre Batters, puis hier, c'est sûr que c'est des games très, très serrés, mais ça, moi, je m'en. Oui, j'ai pas de pression avec ça. Je joue au hockey, puis si je travaille comme que je fais dans les pratiques, puis dans les parties, tout va bien aller. Là.
Mon collègue Bruno Gervais, RDS, il dit souvent l'expression le repêchage, c'est la journée la plus surestimée du hockey. Tu regardes en ce moment, vous avez une belle lutte, toi puis Joshua Roy, justement. Vous n'êtes pas des choix de première ronde nécessairement. Quand tu regardes ça avec le recul, vous êtes en train de prouver que peut-être vous auriez dû être choisi un peu plus tôt. Là.
Oui, c'est sûr. Mais tu sais, oui, puis non. T'sais, mon agent me l'avait dit la journée du repêchage. Fais-toi pas d'attente avec ça. Tu peux sortir 2, 3, 4, 5, 6, 7e ronde. Non, c'est rendu là. Il m'a toujours dit qu'une ronde ou un choix, c'est un choix ou une ronde. Là, ça, dans un an, tu refais un draft au complet. Puis tu sais, le draft est complètement différent. Donc, tu sais, je me faisais pas d'attente avec ça. Puis aujourd'hui, je suis quand même très fier de faire partie de New York puis d'être un choix de 5e ronde. Fait que tu sais, j'ai tout approuvé là, jusqu'à présent. Puis tu sais, je travaille fort pour juste m'améliorer. Là.
J'ai croisé Mario Saracino, dépisteur des Islanders de New York. L'autre jour, on parlait de toi un petit peu, puis évidemment, il est content de sa sélection. Puis là, je dis, le contrat, ça s'en vient-tu, tu sais? Là, il m'a fait un sourire, il dit, tu sais, Lou Lamoriello, c'est pas le gars le plus nerveux, puis tout ça. T'sais, toi, ça te joue-tu dans la tête? Aimerais-tu ça que ça soit réglé? Ouais.
Oui, puis non, tu sais, oui, j'en ai un peu parlé avec mes agents, puis je vais souvent manger avec les joueurs, les coachs de développement de New York. Mais tu sais, on n'en parle pas trop des contrats. Puis tu sais, je ne me fais pas d'attente avec ça pour le moment. T'sais, c'est sûr qu'ils ont jusqu'au 1er juin s'ils veulent me garder. Mais tu sais, jusqu'à présent, je pense que je connais une excellente saison. Donc, je suis très confiant pour la suite des choses.
Là. L'importance du championnat des compteurs, c'est quelque chose que tu penses? Ça se place toujours bien dans un CV?
Oui, c'est sûr que ça se place toujours bien. Mais rendu là, tu sais, on a une équipe pour aller à la Coupe Memorial. Donc, tu sais, si admettons, il y a une petite pause que ça va moins bien, mais que l'équipe gagne ou whatever, tu sais, je vais. Rendu là, ça ne me dérange pas plus. Là, premier, deuxième, troisième, quatrième marqueur de la Ligue. Rendu là, je connais une excellente saison jusqu'à présent. Fait que c'est juste à être fier de moi. Là.
50 buts, 60 buts, c'est des choses que tu penses aussi, j'imagine. Là.
50, c'est plus réalisable. 60, ouais. C'est très réalisable aussi si on continue, même si on continue sur le même pace. Mais rendu là, c'est l'équipe avant tout. Donc, si je suis rendu à 50, 60, tant mieux. Mais si je l'atteins pas, c'est pas la catastrophe.
On a effleuré, William, le sujet un petit peu tantôt de ton retranchement équipe Canada Junior. On sait que le tournoi va être repris cet été, mais on ne sait pas si tous les joueurs qui faisaient partie de l'équipe vont être disponibles. Il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des organisations professionnelles qui vont dire à leurs joueurs « on n'aime mieux pas, tu me vois venir ». Toi, si on se retourne vers toi, qui étant les joueurs qui ont été parmi les retranchés au camp, est-ce que c'est quelque chose, surtout avec la saison que tu connais, là, qui pourrait t'intéresser? Là?
Oui, c'est sûr. Tu refuses jamais ça. S'il me donne une invitation, c'est sûr, je vais la prendre. Puis, tu sais, je vais travailler le plus fort possible pour essayer de faire les clubs s'il faut un camp d'entraînement, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai toujours la porte ouverte à faire l'équipe au mois de. Je ne sais pas quel mois cet été. Là, donc, tu sais, oui, je travaille fort aussi pour ça. Puis, on verra qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses.
Ben, je vais te le dire, justement, c'est quel mois? Parce que les Sea Dogs sont assurés de jouer jusqu'au 26, 27, 28 mm-hmm. juin, peut-être même le 29 juin, si vous allez en finale de la Coupe Memorial. Puis ce tournoi-là arrive le 6 août, 7 août, là, ça va revenir vite.
Oui, c'est sûr, c'est un mois, mais un mois après. Donc, c'est sûr que t'sais, je vais être prêt. S'ils me demandent d'aller au camp ou faire l'équipe, c'est sûr que ma porte est grande ouverte, puis ils m'ont accepté.
Ben écoute, je te laisse aller pour ta séance d'entraînement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser. C'est une super saison, lâche pas. Puis on se reparle très prochainement. Merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Alors voilà, belle discussion avec William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean qui est rendu à 42 buts. Je pense que les 50, là, à moins d'une blessure, ça devrait être... Écoute, on sait, comme on dit, on sait jamais là, qu'est-ce qui peut se passer, là, mais avec une vingtaine de matchs à jouer, les Sea Dogs là, qui sont... Les Sea Dogs ont 47 matchs de jouer, donc il leur reste 21 matchs à jouer. Alors, marquer 8 buts là, pour William Dufour pour atteindre le plateau des 50, ça semble très, très réalisable. Le dernier joueur qui a marqué 50 buts dans la JMQ, c'est Alex Barry-Boulay avec l'Armada de Bainville-Boisbriand, 53 en 2017-18. Il faut remonter. Il y a 15 ans, pour trouver le dernier compteur de 60 buts, Thomas Beauregard avec le Titan d'Acadie Batters, qui avait marqué 71 buts lors de la saison 2006-2007. Il n'y a pas personne d'autre qui s'est rendu à 60 depuis. Celui qui est venu le plus près, c'est Yannick Riendeau avec 58 en 2008-2009 et Anthony Manta avec 57 en 2013-2014. Donc, la porte est là pour William Dufour. 8 buts ou 18 buts dans les 21 derniers matchs pour se rendre à 50 ou à 60. Peut-être couper la poire en deux puis arriver à 55, on verra bien. Mais on va suivre ça, évidemment, de près là, d'ici la fin de la saison. Toujours en ce qui concerne le hockey de la Ligue junior majeure du Québec, je vous le disais un petit peu plus tôt, les Eagles du Cap-Breton ont procédé à un changement d'entraîneur il y a quelques semaines. Chad Cassidy, qui est venu en relève de Jake Grimes. En fait, James Grimes a démissionné le 30 novembre. L'équipe avait une fiche de 6 victoires, 14 défaites et 4 défaites en bris d'égalité. Pendant 8 matchs, il y a eu un intérim qui a été assuré là, par les assistants entraîneurs qui n'ont gagné qu'un seul de ces 8 matchs-là. Et le 11 février, Chad Cassidy a fait ses débuts à Boisbriand comme entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. Et depuis sa venue derrière le banc, ben c'est quand même respectable pour l'équipe, considérant sa position. Là, 5 victoires, 6 défaites et une défaite en bris d'égalité. Le problème des Eagles en ce moment, ils ont 30 points, sont derniers au classement général, se battent pour une place en série, mais ils évoluent dans une division extrêmement compétitive. Et je regarde, ils ont beaucoup de matchs à domicile là, pour terminer la saison. C'est peut-être ce qui peut être un avantage pour eux, 15 des 24 derniers matchs à domicile. Mais c'est phénoménal un peu. Il reste 6 matchs contre les Sea Dogs de Saint-Jean. On connaît la puissance des Sea Dogs. Il reste 5 matchs contre les Islanders de Charlottetown et 4 contre les Titans d'Acadie Batters, dont les 3 prochains, le 2 à la maison et 1 sur la route. Alors, ce ne sera pas facile pour les Eagles d'amasser les points au classement et d'espérer rejoindre là, les Huskies, le Drakkar, et se faufiler là, dans les 16 premières positions. L'entraîneur-chef de l'équipe, c'est un Américain. Il est originaire de Lake Placid, Chad Cassidy. On ne le connaît pas beaucoup, alors j'ai pensé profiter justement de la balado aujourd'hui pour faire un brin de jasette avec lui. Évidemment, l'entretien est en anglais. On va traduire le tout au retour, mais on va apprendre à connaître un peu qui est celui qui est maintenant l'entraîneur-chef de la formation de la Nouvelle-Écosse. Chad Cassidy, first of all, I think my first question, how's life for you in Canada so far? Because you've been coaching for a long time, but it was always in the U.S. team. So how is it in the Sydney, Cape Breton?
It's been great. You know, the people up here are super friendly and, you know, obviously came in here halfway through the year. So had to hit the ground running and didn't have a lot of time to get my feet under me. But everybody's been great up here. Great fans. It's a great hockey city. So really excited to be here.
How did the contact with the Cape Breton Eagles did the first time?
Well, I actually, you know, had a couple of friends reach out to me that were familiar with the Cape Breton organization when they had a need for a head coach and put me in touch with Jacques Carrier. And we kind of started the process from there. And we instantly kind of had some chemistry and kind of saw things the same way and kind of followed from there. So it kind of, everything fell into place, but it was a couple of mutual friends in the hockey business that kind of had a relationship with Cape Breton that put me in touch with JC.
correct me if I'm wrong, but did you have a good knowledge of the Quebec Junior Hockey League before coming? Never really been part of any organization with the league? Did you a little bit of scouting sometimes?
Yeah, a little bit. I grew up in northern New York, so not far from the Quebec border.
Lake Placid, eh?
Exactly, just a couple hours outside of Montreal. So obviously very familiar with the player pool in Montreal. Never have coached, at this level or in this league before, but certainly had a lot of knowledge of the players in the league because I had, recruited some of those players to go to the States over different times, and they chose to go the path of Quebec Major Junior. So, I'd seen a lot of games and knew a lot of people that were involved, but, it's been a learning process for sure. It's a different league than anywhere that I've coached before. So it's been a little bit of a learning curve for me for sure.
Okay, just for the benefit of our listeners, you've been part of three cycles with the with the U.S. Development Program, and then you move on with the Rochester Americans as assistant coach and head coach, and then Northwood Prep, and then a little stint in the USHL. So if you compare what you're doing right now with the Quebec Junior Hockey League, comparing to all those experiences, it's probably a really different one.
It's different just in the style of play, I would say, in the league here. It is way different than the USHL and certainly different than the American League. And the experience has been the same. I've always kind of been involved in developmental hockey from the time, over 20 plus years now. It's always been about developing players' habits and details and trying to get them to the next level. And it's the same here. The adjustment more has just been with the style of play here. It has been a little bit different than what I've been used to. But at the end of the day, the goal is still the same, to help develop your players and move them on and get them ready for the next level.
You coached your first game a couple of weeks ago, but you had the chance to start with the Quebec trip with the six games coming to Val-d'Or, Rouyn-Noranda. It's a long traveling for the Eagles. So was it a good fit for start to get to know your players?
Yeah, for sure. It was ideal, actually, to have, a 10-day road trip right out of the gate. So, we're on the road. We're spending a lot of time together. There wasn't a lot of downtime. We played six games in nine nights while we were there. It was also really special for me because my family got to come up and spend some time with us because, as I said, we're only a couple hours outside of Montreal. So my son, my daughter, my wife spent a week with us on the road there. So that was really special for me. And it was really good kind of trial by fire to get a really good feel for the team, get a feel for the league, see what we needed to do going forward. It couldn't have worked out any better starting in the Quebec trip, other than the fact that most of our team got COVID at the end of the trip.
Yeah, exactly. You had that too. 5-6-1 since you've been there. Are you happy with things are going? You just played three home games so far. You had a lot of home games coming, but would you say you're happy with the way the team is playing since you've been there?
Yeah, I'm happy, but not satisfied. I think we got more in the tank. I've been really impressed and happy with our players' commitment to what we've been trying to do in terms of getting better in our detail, being more of a straight line team, a little bit more north-south stops and starts. We have really committed to that. We've been way better defensively, I feel like, over the last probably couple of weeks. But it's a work in progress. And like I said, we're not satisfied because I think we got more. I think we can be more competitive in games. I think there's more wins out there for us. And if we follow the right process and keep working the right way, that we're going to have some success here.
Of course, you're fighting for a playoff spot. It won't be easy in the division that you're involved. I was looking at your schedule coming. You have 15 games against Pater, Charlottetown, and St. John. You just played Sherbrooke the last weekend. Would you say it's going to be tough? The chances are good to make that run till the playoff spot?
Yeah, well, obviously, schedule-wise, it's going to be difficult. You look at St. John's, you look at Charlottetown, you look at Bathurst. They're some of the best teams in Canada, no less in the Quebec Major Junior League. So we're going to be up against it in those games. But to be quite honest with you, we haven't talked a lot about, what it's going to take to make the playoffs or any of that sort of stuff. We've really just focused on what can we do today to get better, to give ourselves the best chance for success. And all we can do is take care of today. And, we got a three games and four nights against Bathurst coming up, two at home, one on the road this week. Our only focus right now is what's going to give us the best chance to be successful on Thursday night. And we'll deal with the results and we'll move forward from there.
Contract-wise, you see yourself in Cape Breton for a long time. What is the deal you have with the team right now?
Well, the plan is for me to be here for multiple years. As you know, coaching, those things can change over on a dime. But I've really enjoyed my time here. I've really enjoyed the league. This is a very, very good league. I love the pace, the tempo of the league, the skill level of it. It's very professionally run. A lot of really good players, a lot of really good coaches. So, yeah, I'm happy to be here, and I see myself here for a long time.
Do you plan to bring your family over there next summer? Or?
We're still kind of working on that. Obviously, it's a little bit different situation just because taking the job, you know, halfway through the year. Yeah. I have a son who's in high school. I have a daughter who's getting ready to go into high school. I'm not 100% sure on how they're going to feel about moving, you know, out of Lake Placid and moving up to Sydney next year. So that's kind of something the off season that me and my wife are going to try to figure out.
Because the Cape Breton Eagles, it's a great organization, but it's so tough to develop hockey and to do hockey there because of the traveling. A former coach used to tell me that at the end of 4 years, a player can lose like 100 practice time, something like that, because of traveling. So it's not easy to, but it's a beautiful place, and it's a great organization. So the feeling is it's tough sometimes. Would you feel that way for the time you've been there so far?
Well, you know, we've been fortunate, even with the Quebec trip, that, you know, we've been really committed to getting our guys on the ice and practicing, even in difficult travel, even if it's for half hour, 40 minutes, just to get out there and do some skill development. Anything that we can do to make our players better. We've certainly had a huge commitment towards our off-ice training since I've been here. I think in terms of those things, things are really moving in the right direction. The travel is what it is.
Yeah.
We've got to figure out how to work through that travel to best develop our players. And I think we're going to do a really good job of that based off, you know, my experience of what we did with the U.S. national program, because it was very similar there. You know, the 18 year, especially, we spend a ton of time on the road. So you have to figure out, you know, sometimes, yes, we have to get workouts in or practices in when it's not the most convenient for the players when they're tired, because we have to continue to our development of those players.
Well, Chad Cassidy, thank you very much for taking the time with us today. It was fun to get to know you a little bit better, and sure we'll have the chance to chat in person very soon. Thank you very much.
Sounds great. Thank you.
Alors voilà cet entraîneur-chef Chad Cassidy qu'on a appris à connaître un petit peu. Alors je vais résumer tout ça. Il est originaire de Lake Placid. Son parcours d'entraîneur, il a travaillé 3 cycles avec le programme de développement américain, là, les moins 17 et moins 18. Alors, faisait une saison moins 17, montait avec le groupe les moins 18, revenait l'année suivante, recommençait avec les moins 17, moins 18. Il a fait ça 3 fois là, entre les années 2005 et 2011. Il a dirigé notamment des bonhommes comme Ryan McDonough, pour n'en nommer que quelques-uns là, qui ont passé dans le programme au cours de ces années-là. Par la suite, il a fait le saut dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester, d'abord comme entraîneur adjoint, puis il a remplacé Ron Ralston comme entraîneur-chef. Quand ça s'est terminé de ce côté-là, il est revenu au niveau high school, si on veut, aux États-Unis, Northwood Prep, qui est une école secondaire où quelques joueurs du Québec ont déjà joué là. En début de saison, il avait été engagé l'été dernier pour diriger les Lancers d'Omaha dans la USHL. Ça n'a pas fonctionné, a été remercié. Et là, il se retrouve à la barre du Cap-Breton. Je lui demandais de comparer un peu tout ça. Il dit... La Ligue junior majeur du Québec, c'est un style différent, mais il adore ça de la façon dont ça se passe, de la façon dont c'est dirigé. Tout est très professionnel. Le contact s'est fait avec le DG Jacques Carrière par l'entremise de connaissances communes. Lorsque les Eagles ont eu besoin d'un entraîneur, il a été mis en contact, il dit ça a cliqué, il y a eu une belle chimie avec Jacques Carrière. Était familier un peu avec les joueurs du Québec dans la région de Montréal, parce qu'étant originaire de Lake Placid, ça lui arrivait de venir faire du dépistage auprès des équipes midget dans la région de Montréal. Il a toujours été dans le développement des joueurs, que ce soit avec la Ligue américaine, les écoles secondaires, le programme américain évidemment. A commencé son séjour avec les Eagles avec le fameux voyage de 6 matchs en un jour, le Boisbriand, Val-d'Or, Gatineau, l'Abitibi. Bref, il dit ça a été parfait. Il dit, un, j'ai pu voir ma famille un petit peu. Deux, ça m'a appris à connaître les joueurs. Malheureusement, on est revenu de là, puis il y a eu des cas de COVID. On a été obligé de remettre des matchs. C'est la raison qui explique que les Eagles, c'est l'équipe de la Ligue avec quelques autres qui ont le moins de matchs joués et surtout le moins de matchs joués à domicile. On n'a joué que 19 matchs à domicile présentement, donc 15 des 24 derniers matchs sont à la maison. Et disons, on va jouer beaucoup, comme je le disais, contre Charlottetown, Bathurst et Saint John. Et c'est pas seulement trois des meilleures équipes de la LHMQ, mais trois des meilleures équipes au Canada présentement. Pour ce qui est de la course aux séries, ce ne sera pas facile. 8 points de retard sur les Huskies de Rouyn-Noranda présentement, qui sont 16e. Et comme je le disais, ben, les points sont difficiles à aller chercher dans la section des Maritimes. J'ai comme l'impression que les Eagles du Cap-Breton là, vont rater les séries éliminatoires cette année et auront la chance de se retrouver pour le repêchage, là, pour la loterie, d'avoir le plus de chances d'obtenir le fameux premier choix des rangs midget. Il espère s'établir au Cap-Breton. On ne sait pas encore si sa famille voudra le suivre là-bas, déménager de Lake Placid au Cap-Breton. Ses enfants sont sur le bord là, de rentrer à l'université, alors ça va peut-être être difficile. Je lui parlais du voyagement, comment ce n'est pas facile au Cap-Breton. Il dit, faut trouver la façon de s'entraîner et de continuer à développer nos joueurs. Il dit, les voyages vont toujours faire partie de notre réalité. Il y a un entraîneur qui a déjà dirigé au Cap-Breton qui m'avait fait remarquer il y a quelques années que pour un joueur junior qui repêche au Cap-Breton, oui, il développe premièrement l'éloignement, sa forge de caractère, tout ça. Mais il reste que tu perds peut-être entre 20 et 25 séances d'entraînement par année si tu compares à un joueur qui joue, par exemple, au centre du Québec, à Drummondville ou à Victoriaville. Alors, sur une carrière junior de 4 ans, on parle d'une centaine de séances d'entraînement en raison des voyages. Alors ça, c'est sûr que ça devient un facteur des fois qui peut être plus difficile. C'est une réalité là, pour la formation des Eagles du Cap-Breton qui a fait son entrée dans la Ligue junior majeure du Québec en 1997-98. Alors voilà donc pour Chad Cassidy. On aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines. Petit mot peut-être avant de présenter notre dernière entrevue de cette semaine sur les Lions de Trois-Rivières. Les Lions de Trois-Rivières, présentement, on va se le dire, c'est pas facile. On a beaucoup de joueurs. On est rendu à plus de 70 joueurs utilisés là, depuis le début de la saison. Au cours de la dernière semaine, les Lions dans la SCHL ont joué 4 matchs à Terre-Neuve, 1 victoire et 3 défaites. La victoire est venue in extremis. On tirait de l'arrière 3-2. On a égalé la marque avec moins de 2 minutes. Le but gagnant à 19-47. Alors, ça a été une victoire in extremis. Par la suite, ça a été 3 revers, 6-1, 9-4 et 5-4. De sorte que les Lions de Trois-Rivières, là, depuis la mi-février, là, on parle d'une fiche de 2 victoires contre 10 revers, 2 victoires en 12 matchs. Alors, le fossé s'est créé là, entre les Lions et les Growlers de Terre-Neuve, notamment, là, qui est l'équipe avec laquelle on est souvent impliqué. Il reste encore un match contre Terre-Neuve à Trois-Rivières cette semaine. Les Lions seront à domicile contre Worcester, Terre-Neuve et le Maine. Les 16, 17 et 18 mars, donc à compter de mercredi, jeudi et vendredi. Moi, j'ai toujours connu la Ligue Midget 3A comme la Ligue de développement Midget 3A. La Ligue a changé de nom. On lui reconnaît maintenant sur la Ligue M18 3A. Le président de ce circuit depuis 4 ans, c'est notre collègue à RDS, Yannick Lévesque. Évidemment, on ne l'a pas eu facile du côté de la Ligue Midget 3A. L'an passé, il n'y a pas eu de saison du tout. Les joueurs de 15 ans l'an passé qui ont été repêchés par les équipes juniors sans avoir joué de la saison. Cette année, ça se déroulait bien jusqu'à la pause des fêtes, jusqu'au Challenge Midget qui a eu lieu au Saguenay là, juste avant Noël. Par la suite, ben, un peu comme la LHJMQ, on s'est retrouvé en mode arrêt, on ne pouvait plus jouer. On a finalement repris les activités. Et là, on arrive à la fin de la saison régulière qui va se terminer dimanche prochain. Alors, j'ai pensé faire le bilan un peu de la saison et de la situation avec le président de la Ligue Midget, la Ligue M18 3A, Yannick Lévesque.
À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Yannick Lévesque, président de la Ligue Midget 3A. Vous êtes à une semaine de la fin de la saison. Je ne dirais pas qu'elle a été normale, mais quand je regarde les statistiques, on s'approche des 42-44 matchs par équipe qu'on joue habituellement.
Oui, un grand soupir de soulagement, m'a dit Stéphane, hein? Parce qu'honnêtement, quand tout ça a recommencé un peu avec l'histoire de la pandémie, le Micron, là, après le challenge au mois de décembre, là, je vais t'avouer que j'étais drôlement inquiet là, en janvier. De savoir si on était pour être capable de finir la saison et jouer des séries. Là, c'est un grand soupir de soulagement. Fait que je pense que tout le monde est heureux avec les 36, 37 ou 38 matchs, ça c'est certain.
On est un peu en retard sur les échéanciers. Ça va chambarder un petit peu, je pense, vos séries éliminatoires. Oui. Il n'y aura peut-être pas là, de Coupe Dodge puis de choses comme ça. Là. Puis la Coupe TELUS a été officiellement repoussée aussi. Donc, pour quelle date? Comment on s'enligne à peu près d'après toi pour remettre un trophée vers quelle date? Là?
En fait, nous, de notre côté, c'était déjà clair qu'on ne participait plus à la Coupe de Dodge. Ça, c'est déjà réglé depuis 2020. Par contre, on avait mis sur pied une nouvelle formule, un nouveau tournoi, un genre de challenge un peu là, pour les équipes éliminées, faire un tournoi. Mais ça, on l'a mis de côté. Ça devait se tenir à Gatineau, le week-end de Pâques. Donc là, pour cette année, on l'a mis de côté. On a vraiment pris la décision dès qu'on a su que la Coupe TELUS était pour être présentée dans la semaine du 9 mai à Calgary cette année. De jouer des séries complètes. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des 3-5, mais ça va être des séries complètes. Ça va vraiment fonctionner comme à l'habitude avec le trophée la Coupe Jimmy Ferrari et notre gagnant des séries va aller représenter le Québec du côté de Calgary au mois de mai. Donc, c'est juste que tout est décalé dans le fond de 3 semaines par rapport à la normalité, mais normalité qu'on ne connaît pas depuis 2 ans. Là, mais au moins, tout le monde va pouvoir participer comme à l'habitude aux séries là, puis ça débute la semaine prochaine.
Quand on regarde ce qui s'est passé, bon, en 2020, vous n'avez pas été capable de terminer les séries éliminatoires. L'année passée, pas eu de saison du tout. La santé de la Ligue, la santé des équipes, tu sais, c'est souvent remis. Puis je sais que le Midget 3, c'est peut-être pas comme le junior majeur. Oui, on dépend des foules, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup des commanditaires, puis les implications. Comment on, sur 15 formations, là, tu dirais que c'est quoi à peu près, là?
Ben écoute, en fait, dès que, tu sais, on se rappelle qu'il y a pratiquement 2 ans, là, jour pour jour, c'était le début de la pandémie qui nous frappait. Puis dans le mois qui a suivi la fin des activités, j'avais décidé de faire le tour avec mon exécutif de la Ligue de chacune des formations. Vraiment là pour faire le tour avec eux au niveau financier parce qu'on savait que c'était pour être long. Puis je voulais m'assurer que les équipes étaient en santé. Je savais que la Ligue était en santé, mais au niveau financier des équipes, je te dirais que sur les 15 équipes, tout le monde était en santé. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Sauf que là, avec le temps, ben est arrivé la perte de revenus, la perte de commanditaires et tout ça. Donc, j'ai certaines formations qui en ont arraché un peu plus. On a eu des programmes gouvernementaux qui nous ont aidés à petite échelle, on s'entend, là, on est très loin des montants que
les. Tu n'es pas dans le 1 million par équipe. Ben, comme
vraiment. Écoute, moi, j'aurais 100 000, ça aurait fait notre affaire. Là, ouais, écoute, on n'était même pas proche de ça. Mais tout le monde a fait une saine gestion. Évidemment, les coûts ont été diminués au maximum. Il faut se rappeler qu'on avait annulé le challenge un peu à l'avance pour sauver de l'argent à tout le monde aussi. Ça, c'est il y a un an et demi. Et là, quand ça a reparti, chacun dans leur marché a réussi à combler un peu leur perte. Puis nous, à la Ligue, on a perdu des gros commanditaires. On a réussi à en chercher des nouveaux. Tu sais, le groupe MTY là, qui est rendu avec nous là, de façon majeure et tout ça. Donc, on se retrouve 2 ans plus tard où actuellement, Stéphane, j'ai aucune équipe en difficulté financière. La Ligue se porte bien également. C'est certain qu'on a dû faire attention. Rappelez-vous, là, on a fait des calendriers, des scénarios différents où on limitait les voyages, on limitait l'hôtel à la fois pour la santé là, à cause de la COVID, mais aussi pour les dépenses. Donc, on se retrouve 2 ans plus tard dans une situation qui n'est pas trop alarmante de notre côté. Puis comme on ne se fie pas non plus aux revenus là, à la porte, c'est pas ça qui fait qu'une équipe, la santé financière va dépendre de, comme dans la Ligue junior majeure du Québec, là, entre autres. Donc, on s'en est bien sorti de ce côté-là.
Au niveau hockey, le développement des joueurs, tu sais, on a beaucoup parlé, je regarde des joueurs juniors cette année qui ont 17 ans, qui n'ont pas joué l'année passée, qui ont 16 ans, même ceux qui avaient 15 l'année passée, ça l'a affecté beaucoup. Est-ce que tu sens que ça revient, là, puis les recruteurs de la Ligue junior majeure du Québec, quand ils assistent à vos matchs, c'est quoi le pouls, là?
Bien, tu sais, l'an passé, c'était un coup de dé, hein, dans le fond. Ouais. C'est facile d'identifier les 2, 3, 4, 5 premiers, même la première ronde, mais après, là, c'est vraiment un coup de dé, parce que tu sais, Steph, tu connais ça pas mal, toi aussi. Les jeunes, souvent, il y en a, vont se développer un peu plus tard. On ne les a pas vus jouer l'année passée. C'est bien beau avec des pratiques. On avait donné accès vidéo aux séances d'entraînement, à un certain moment donné, aussi en présentiel pour quelques recruteurs. Mais cette année, on est vraiment ailleurs. Là. Tu sais, je jasais avec tout le monde au Challenge au Saguenay au mois de décembre. Puis tous les recruteurs, unanimement, disaient « Enfin, on peut les voir jouer. » Tu sais, c'est difficile de bien identifier un jeune à 15 ou 16 ans. Tu sais, tu vas le regarder jouer au mois de septembre, tu vas le regarder jouer au mois de mars. Puis des fois, on est vraiment ailleurs. Pas pour tous les jeunes, mais pour quelques-uns. Il y a une maturité, un développement qui se fait. Puis c'est un peu le rôle de la Ligue M18 aussi de développer ces jeunes-là, de les amener vers le haut. Puis ça se fait ça progressivement au cours de la saison. Tu sais, fait que c'est sûr que pour les recruteurs, cette année, je pense, c'est beaucoup plus facile là, pour être capable de bien identifier le talent. Tu sais, moi, ça m'a fait énormément de peine. Moi, je pense que c'est ça qui nous a fait le plus mal. Tu sais, c'est même pas le côté financier de... C'est vraiment de ne pas avoir permis à ces jeunes-là de jouer, de se développer. Tu sais, ils ont perdu une année. Puis pour quelques-uns, là, ils ont peut-être perdu quelques rangs de sélection, peut-être même des chances là, de se retrouver dans une équipe junior majeure. Tu sais, j'espère qu'ils vont rattraper le temps perdu. Mais pour vrai, là, c'est ça qui a fait le plus mal. Dans notre cas, nous, là, c'est vraiment ça qui a fait le plus mal. C'était notre souhait de pouvoir... Et rappelle-toi, Stéphane, on avait... un plan l'an passé qui nous amenait là, jusqu'à même jouer une mini-saison de un mois au mois de mai, juste pour permettre à les jeunes de se faire voir. Puis finalement, on n'a pas pu le gouvernement à ce moment-là. On se rappelle que c'était impossible l'an passé.
On verra dans le futur si les joueurs nés en 2005, ça les aura affectés ou pas. Je regarde tes chandails en arrière, je t'écoute parler. Toi, c'est bien implanté dans ton vocabulaire, là, le M18-3A. Là. Moi, j'ai un peu de misère avec ça personnellement. Là, tu sais, je veux pas comparer avec l'Impact puis le FC puis tout ça, là, mais est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait... Tu sais, on était obligé d'aller là? Parce que moi, ça me fait... Quand je vois M18, je pense toujours, OK, c'est des 17 ans, mais la Ligue Midget 3, on sait que c'est plus souvent des 15 que des 16 ans. Là, tu sais,
oui, exact. Ben, tu sais, contrairement peut-être à, comme tu dis, le CF Montréal ou l'Impact, nous, c'était pas notre volonté, loin de là. On voulait pas du tout. On s'est battu là, pour conserver le nom, la Ligue Midget 3A. Mais il faut se rappeler là, que tout ça a parti d'une histoire d'une maman que son fils était une personne de petite taille dans l'Ouest canadien. Puis la connotation midget en anglais a une signification bien différente qu'en français. Tu sais, ça a rapport avec les nains. Puis en tout cas, tout ça pour dire, pour faire une histoire courte, là, tout ça était parti par cette dame-là. C'était allé en cours. Puis là, ben, Hockey Canada a exigé de toutes ces ligues provinciales partout au pays d'adopter le nouveau nom puis d'y aller avec la formule, ben c'est en anglais, c'est le U, là, U18, mais nous, on voulait le financiser, c'est pour ça qu'on a pris le M18. On n'avait pas le choix. Donc, si on avait persisté à garder notre logo et nos choses, probablement qu'on se serait ramassé avec des problèmes. Puis honnêtement, là, depuis 2 ans, je pense qu'on a lancé eu ce problème à régler. On a décidé d'aller de l'avant. On a fait un nouveau logo, on l'a rajeuni un petit peu.
C'est sûr que c'est pas la fin du monde, mais peut-être pour les puristes puis ceux qui ont connu la Ligue depuis toujours, tu sais, c'est pas...
J'en fais partie. Moi aussi, je voulais pas, mais regarde, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions puis t'as pas le choix.
Fait qu'on termine la saison, on s'en va, puis on peut penser que l'an prochain, on va redevenir dans les cadres habituels, puis il y a toujours le projet de ramener la Coupe TELUS à Saint-Hyacinthe, ça, c'est pas...
Ouais, bien ça, à l'heure où on se parle, là, moi, dans mon livre à moi, là, j'ai pas eu d'indication contraire. Là, en avril 2023, la Coupe TELUS va être présentée au stade LP Gaucher de Saint-Hyacinthe. On sait que l'an prochain, ça va être une grosse saison. On revient dans les cadres normales, on va souhaiter. Il y a les Jeux du Canada en février, l'an prochain également, donc ça, c'est
les joueurs... Moins de 15 ans.
Oui, exact. C'est les moins de 16 ans qui sont là. Donc, nos jeunes de 15 ans se retrouvent, nos meilleurs se retrouvent avec l'équipe Québec. Donc, ça, c'est en février. Il va y avoir la Coupe TELUS qui va être présentée au mois d'avril. Donc, puis le challenge, dernière année du challenge également du côté du Saguenay. Nous, notre comité se réunit dans les semaines à venir pour étudier les candidatures pour le prochain cycle de 4 ans. Et on va octroyer possiblement en septembre prochain. Au début de la saison, on devrait annoncer l'endroit où va se tenir le challenge pour les 4 prochaines années. Là, on termine nos 4 ans. Ben, en fait, ça aurait été 5 années en temps réel, mais 4 éditions au Saguenay. Et là, on devrait revenir un peu plus central au Québec, là, parce qu'on fait une rotation par division. Là, rappelez-vous, il y a eu Québec, il y a eu Gatineau, Saguenay. Donc là, on devrait revenir dans la division TAC, dans les équipes de la division TAC.
Yannick, bonne fin de saison. On va suivre ça, puis on va se souhaiter le rapatriement de la Coupe TELUS. Ça commence à faire longtemps, 2001.
C'est dû, hein, c'est ça. Ouais, c'est la première année, rappelle-toi, Steph, la première année, je suis arrivé à la présidence. Tout le monde a parlé de la Coupe Air Canada à Sorel à l'époque. Ouais, j'étais là en 1990. Là, on a dit, tu vas peut-être ramener la Coupe au Québec. Comme ça a passé proche, tabarnouche en finale, ma gueule, mais finalement... on attend encore, je pense que ça fait 22 ou 23 ans. Là,
2001, les gouverneurs de Sainte-Foy, 2001.
Ben, on est dû, on le souhaite pour cette année. En tout cas, on va avoir des bonnes équipes, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Yannick d'avoir pris le temps.
Merci Steph, bye.
Alors voilà donc le président de la Ligue M18-3A, Yannick Lévesque. Peut-être juste pour compléter, là, à une semaine de la fin du calendrier, les Chevaliers de Lévis là, qui sont assurés de terminer au premier rang, une autre superbe saison. 30 victoires et 8 défaites en 38 matchs. Magog et Saint-Eustache sont également là, parmi les meilleures formations de la Ligue. Trois-Rivières aussi, il ne faut pas oublier. Donc, on va suivre ça, les séries éliminatoires. La saison régulière qui se termine dimanche prochain et les séries éliminatoires qui vont se mettre en marche là, probablement le 22 ou le 23 mars prochain. Et ça va nous mener jusqu'à la finale de la Coupe TELUS qui sera présentée sur les ondes de RDS à la mi-mai cette année. Il va en avoir du hockey en mai et en juin cette année. C'est extraordinaire. Là, les séries éliminatoires de la LHJMQ en mai, les séries éliminatoires de la Ligue américaine, la Coupe TELUS. Faut pas oublier à la fin avril également le championnat du monde des moins de 18 ans. Bref, on ne va pas s'ennuyer pour ce qui est du hockey sur nos ondes. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Yannick Lévesque de la Ligue M18-3A, Chad Cassidy des Eagles du Cap-Breton, William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean, à la technique Guillaume Poliquin, à la recherche Christian Daou, à la coordination Luc Dansereau. Ici Stéphane Leroux, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.